This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 11 avril 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous les avez peut-être entendus à la radio ou lus sur Internet, moi je suis fidèle à la bonne vieille annonce à la télé. Depuis hier soir, on connaît les noms des deux finalistes de la présidentielle.
Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%, devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche.
Nous entrons donc aujourd'hui dans une période spéciale de la vie politique française. Ces 15 jours intenses où les deux derniers candidats au poste suprême doivent nouer des alliances, élargir leur base électorale, se préparer pour le débat télé. Chaque camp clame que c'est une nouvelle campagne qui commence.
Xavier, je ne veux pas décevoir, mais cette campagne de l'entre-deux-tours, dans toute l'histoire de la Ve République, elle ne sert pas à grand-chose, en fait.
Ah, donc ce n'est pas si crucial que ça, ces deux semaines. Je voulais justement, Eric, que tu viennes nous en parler, mais bon, tu as peut-être d'autres idées pour le podcast.
Oh, attends, Xavier, pas si vite. Tu sais comment je suis, j'exagère un peu, j'ai un peu caricaturé. Mmh. On va nuancer, évidemment. Et il y a même deux exceptions qui vont te plaire, à mon avis.
Ouf, tu me rassures, il y a bien matière à se pencher sur ce fameux entre-deux-tours, parce que si je te suis bien, Eric, c'est en analysant les précédents qu'on comprend pourquoi celui qui commence pourrait créer la surprise. Après cette entrée en fanfare, je te présente quand même Eric Mandonné, chef du service politique de L'Express. Tu nous as dit, bon, de manière un peu provocante, que l'entre-deux-tours ne servait à rien. Pourquoi ?
Ben, à chaque élection présidentielle de la Ve République, le favori du second tour l'a toujours emporté. Il n'a jamais eu de surprise de l'entre-deux-tours. En 74, Giscard l'emporte. En 81, Mitterrand. Encore en 88, Mitterrand. 95, on sait au soir du premier tour que Chirac l'emportera. Idem en 2002, en 2007, Nicolas Sarkozy s'est écrit, François Hollande en 2012, Emmanuel Macron. Bref, les vainqueurs sont connus à l'avance. Et je vais te dire mieux, les sondages au soir du premier tour ou au lendemain du premier tour se sont toujours, ou presque, révélés exacts, quasiment à la virgule près.
Attends, tu veux dire que ces sondages ont donné deux semaines à l'avance, le résultat final du second tour?
Absolument. Au soir du premier tour, on connaît les résultats du deuxième tour. Je te fais la démonstration, si tu veux.
Ah bah, je veux bien voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Vous, à la loupe, vous avez une armoire à définition, un téléporteur, et que sais-je encore, je ne comprends pas tout. Eh bien, nous, au service politique, on a aussi du matériel. Là, ce gros bouquin bien lourd, c'est ce que nous appelons la Bible du service politique. Toutes les statistiques des élections passées, Noël est passé, sinon je te l'aurais offert. On retrouve tout, région par région, les résultats, les statistiques. Et toi, je suis sûr que tu dois avoir les archives des soirées électorales.
Oui, on les avait d'ailleurs préparées pour la campagne.
Bon, allez, on commence la démonstration. Tu veux quelle présidentielle là pour commencer?
Je sais pas, disons 2007.
2007, alors, c'est parti. Tiens, un sondage du CSA, 23 avril 2007, lendemain du premier tour. Donc, Nicolas Sarkozy, 53,5, Ségolène Royal, 46,5.
Donc, on vérifie le résultat final.
53 donc pour Nicolas Sarkozy, 47 bien sûr pour Ségolène Royal.
Ah oui, on est à 0,5 près, c'est impressionnant. Si je remonte un peu dans le temps, 1988 par exemple ?
Facile, 1988, c'est la fin de la première cohabitation, Mitterrand-Chirac. Sondage Ipsos, dimanche 24 avril 88 au soir, Mitterrand 53, Chirac 47, abracadabra, le soir du second tour, le résultat est...
François Mitterrand vient d'être réélu selon l'estimation Bull BVA avec 53,9% des voix et 46,1% pour Jacques Chirac.
Bon, d'accord, il y a un tout petit peu d'écart, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans la marge d'erreur, c'est 3-4 points, on est bien en dessous, donc les sondages ont vu juste.
Je dois avouer que la démonstration est plutôt convaincante. Il est pas mal ton matériel du service politique, Eric.
Bien sûr, et je pourrais te donner d'autres exemples encore. Alors parfois, ça bouge un peu, ça se joue à quelques points près, mais le rapport de force constaté au soir du premier tour reste le même, les lignes ne bougent pas. Et ça, même quand il se passe des trucs importants, des trucs forts pendant l'entre-deux-tours.
Mais tu as un exemple d'entre-deux-tours particulièrement animé ?
Restons sur 1988, ouais. Parce que ce fut un entre-deux-tours particulièrement dramatique, avec de vrais événements de campagne, dont on se demande à chaque fois s'ils vont faire bouger les lignes. Il y a d'abord la fameuse libération des otages français détenus au Liban. Mitterrand, président, Chirac, Premier ministre, se disputent un peu le mérite de cette libération.
Je voudrais vous annoncer que je viens à l'instant d'être informé que les trois otages français retenus au Liban viennent d'être remis entre les mains du représentant du ministre de l'Intérieur.
Mesdames et messieurs, au nom du pays tout entier, j'exprime à nos trois compatriotes ainsi qu'à leurs familles notre soulagement de les voir revenir parmi nous.
Et puis, un autre événement dramatique, c'est la prise d'otages des gendarmes français dans la grotte d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, par les Kanaks. Là aussi, vive tension au sein de l'exécutif.
Ce qui compte aujourd'hui, je veux dire à la minute où je m'exprime, c'est la libération des gendarmes et du magistrat qui sont aujourd'hui retenus en otage, ce qui n'est pas pour nous supportable.
Vous savez, je connais bien la Calédonie. Et c'est un pays que j'aime. J'y suis allé 11 fois.
Ce qui me donne une certaine supériorité par rapport à ceux qui ne connaissent pas cette terre, ces hommes.
Et certains dans l'entourage de François Mitterrand vont s'affoler un peu. Est-ce que ces événements risquent de remettre en cause le rapport de force entre Mitterrand et Chirac ? Mitterrand est un vieux sage. Lui, il dit tout de suite que ça bougera pas vraiment. Et il aura raison.
Oui, on a vu avec le résultat. Là, tu nous parles d'une époque où on était dans le rapport de force droite-gauche classique.
C'est vrai. C'était pareil en 74, 80, lorsqu'on est vraiment dans la politique pure et dure des rapports de force camp contre camp. Pas encore l'époque du zapping électoral, pas encore l'époque où on décide de son vote en prenant sa carte d'électeur le matin et en partant pour le bureau. À l'époque, c'est une décision mûrement réfléchie. Et le rapport de force n'évolue pas. Mais plus près de nous, 2007, l'affrontement Sarkozy-Royal. Alors, c'est un affrontement plus personnel entre ces deux stars de la politique, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Mais cela donne un second tour quand même typique, avec une campagne de l'entre-deux-tours, donc à peu près inutile.
Tu parles de second tour typique, mais quand on a un second tour atypique, justement, comme en 2002 avec Jean-Marie Le Pen qualifié surprise face à Jacques Chirac ?
Alors là, c'est vrai que c'est un séisme politique. Le 21 avril, ça reste une date. On ne se souvient même plus de l'année. On se souvient de cette expression, 21 avril. Séisme politique et entre deux tours particulièrement animé. On se souvient les réactions le soir du 21 avril, les manifestations plusieurs jours par semaine dans les deux semaines de l'entre-deux-tours et la manifestation monstre du 1er mai.
Entre 1 et 2 millions de personnes partout en France, la mobilisation contre le Front National ressemble ce soir à un raz-de-marée humain.
Le refus de Jacques Chirac, qui s'exprime lors d'un meeting à Rennes et qui indique son refus de débattre avec Jean-Marie Le Pen. C'est la première fois que le débat de l'entre-deux-tours n'aura pas lieu.
Il faut avoir le courage de ses convictions, la constance de ses engagements, pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National. Je n'accepterai demain de débat avec son représentant.
Bref, il se passe beaucoup de choses inédites, mais là encore, ça ne change rien. Pas seulement le nom du vainqueur, bien évidemment, Jacques Chirac, mais les lignes ne bougent pas vraiment entre le soir du premier tour et le soir du second.
Si je te suis bien, Eric, ça veut dire que ceux qui nous écoutent là peuvent regarder les sondages qui vont sortir aujourd'hui et ils auront à peu près le résultat final de la présidentielle dans deux semaines.
Alors, on va pas tuer l'ambiance non plus. C'est pas si simple, c'est pas si automatique. Et puis, les deux exceptions dont on parlait tout à l'heure, elles concernent les deux dernières élections présidentielles. Ça veut dire que l'histoire, peut-être, est en train de bouger un peu.
Alors, garde bien ta Bible du service politique ouverte, Eric. On va maintenant se pencher sur ces deux exceptions. Si les deux qualifiés pour le second tour nous écoutent, c'est le moment du mode d'emploi pour faire bouger les statistiques.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix, 17 ans après François Mitterrand.
Donc là, on est en 2012, Eric, François Hollande était donné favori après le premier tour, il gagne. Où est la différence ?
La différence, c'est que l'écart prévu au soir du premier tour et au lendemain entre François Hollande et Nicolas Sarkozy va très nettement se réduire dans l'entre-deux-tours. Les sondages prévoyaient 8 voire 10 points d'avance pour François Hollande, 54, 46, 55, 45, même pour l'un d'eux. Et finalement, le score final sera beaucoup plus restreint, moins de 4 points. On sort là de ce que je viens d'expliquer pendant un petit bout de temps,
oui.
Les canons de la cinquième.
Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux semaines d'entre-deux-tours en 2012 pour qu'on assiste à un tel changement ?
Eh bien, Nicolas Sarkozy va mener une campagne totalement inédite pour un président sortant. Pendant l'entre-deux-tours, normalement, un président sortant, surtout après le premier tour, il joue le père de la nation. C'est Tonton en 1988. On apaise, on calme, on rassemble. Eh bien, Nicolas Sarkozy, il fait tout l'inverse. Il va chercher plus sur sa droite et non au centre. Il utilise beaucoup tous les thèmes les plus sulfureux qu'ils soient, l'immigration, les frontières, le droit de vote des étrangers.
Nous devons croire dans l'autorité, parce que l'autorité protège, parce que le laxisme ne rend pas service aux enfants. Celui qui travaille doit toujours gagner davantage que celui qui ne travaille pas. Nous devons agir en divisant par deux le nombre d'étrangers que nous accueillerons dans les 5 années qui viennent.
Il y a même un clip sur les immigrés qui fait grincer des dents, y compris parmi les proches de Nicolas Sarkozy, avec des images de Lampedusa, de réfugiés et d'immigrés qui arrivent. Bref, on joue à se faire peur. Eh bien, campagne inédite et performance inédite pour Nicolas Sarkozy. Il fait bouger les lignes, il rattrape son retard et il va même développer une thèse là aussi inédite, mais qui est loin d'être avérée. Si l'entre-deux-tours, si les deux semaines avaient duré un mois, eh bien, il aurait gagné 15 jours de plus, c'est sa fameuse thèse. On ne pourra jamais prouver le contraire, mais ça prouve quand même qu'il s'est passé quelque chose dans cet entre-deux-tours-là.
Et quelle leçon peut tirer au hasard un président sortant de cet exemple ?
Alors, ce n'est évidemment pas la même problématique pour Emmanuel Macron. On a vu sa campagne de premier tour manquant cruellement de dynamique. Il commence presque sa campagne pour l'élection présidentielle au lendemain du premier tour. Ça peut poser des problèmes. Il va donc devoir condenser dans les 15 jours qui viennent toute une campagne présidentielle. Mais si on parle de 2012... Et si j'étais dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, je regarderais plutôt dans l'entre-deux-tours de 2012 le fameux débat télévisé Sarkozy-Hollande.
Le fameux débat avec l'anaphore de François Hollande. Pourquoi tu nous en parles, Eric ?
Parce que ça pose une vraie problématique pour Emmanuel Macron. Pour un président sortant, passer des dorures de l'Élysée au ring de boxe, qui est un débat télévisé de l'entre-deux-tours, ce n'est pas si facile. En 2012, Nicolas Sarkozy est président sortant. Mm-hmm. Le matin du débat face à François Hollande, il est à l'Élysée. Il répète avec ses conseillers, lesquels conseillers sont presque obligés d'apaiser Nicolas Sarkozy. Il est décidé à défoncer François Hollande. Ses conseillers lui disent, attention, vous êtes président sortant, il s'agirait tout de même de ne pas être trop agressif. Il rôde ses formules. Bref, il est prêt. Et voilà qu'il arrive dans les studios télévisés et juste au moment où il va monter sur le ring, entrer sur le plateau, il lance à son entourage un très étonnant « ça m'emmerde ce truc ». Il a perdu son énergie, sa fougue, il est gagné par une forme de lassitude, de fatigue qui viennent de loin. 5 ans président, vous avez été habitué dans toutes les émissions télévisées à être le seul en scène, à avoir tout le temps que vous voulez. Et là, il va manquer son débat télévisé.
Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes content. Les Français le sont moins, mais vous êtes content.
Monsieur Hollande, c'est pas le concours de la petite blague.
Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue.
C'est une calomnie. Vous êtes un petit calomniateur en disant ça.
Donc, on le voit, on l'entend, c'est pas facile pour un président sortant. Et c'est un vrai handicap pour Emmanuel Macron. Il n'a fait que des émissions sur mesure pendant 5 ans. Lorsqu'il était invité, il était le seul invité. Son fameux grand débat, il y avait un avantage. C'est lui seul qui parlait et il n'y avait pas de limite de temps. C'est quand même différent, c'est pas un débat de l'entre-deux-tours, ça. Et peut-être, d'ailleurs, est-ce une erreur supplémentaire d'avoir refusé les débats d'avant le premier tour, parce que ça a donné une mauvaise impression démocratique. Et puis, ça a empêché Emmanuel Macron de se chauffer. Et la semaine prochaine, lorsqu'il va faire ce fameux débat, eh bien, il n'aura eu aucun match d'entraînement.
Mais Emmanuel Macron a déjà l'expérience d'un débat réussi. On se souvient, c'était face à Marine Le Pen il y a 5 ans.
Oui, ça c'est tout à fait vrai, mais attention, cela avait provoqué la deuxième exception à notre fameuse règle du second tour qui ne sert à rien.
Transition parfaite, Eric. En 2017, là aussi les lignes ont bougé entre le premier et le deuxième tour ?
Oui, les lignes bougent, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron va réussir à creuser l'écart. Attends, laisse-moi vérifier dans ma Bible. Les sondages au soir du premier tour, on est plutôt dans le 60-40, et à la fin...
Voici le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Marine Le Pen obtient ce soir 34,9% des voix.
Oui, ça sera même les résultats officiels, 66%. Et pourtant, Marine Le Pen a fait un très bon début de campagne de second tour. Elle est sur toutes les balles, alors que Emmanuel Macron est englué dans sa polémique sur la rotonde. Il fête la victoire avant même de l'avoir emportée au soir du premier tour.
La brasserie La Rotonde affiche soirée privée. Derrière les baies vitrées, c'est sourire et champagne pour le couple Macron et ses convives.
Si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien.
Et puis le débat, on a tous vu, on s'en souvient, l'effondrement en direct de Marine Le Pen. Elle perd des points dans les sondages et à l'arrivée, le débat télévisé a fait bouger, je crois que c'est une exception dans l'histoire de la 5e, il a fait bouger les lignes. Il n'a pas changé le nom du vainqueur, mais il a renforcé la dynamique en faveur d'Emmanuel Macron.
Oui, cherchez dans vos dossiers, vous seriez bien.
Oui, je vais vous retrouver ça
mais
immédiatement
allez-y.
Et vous allez voir que vous allez être en difficulté
de plus. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens.
Deux dossiers vendus contre les intérêts de la France.
Mais c'est faux,
Macron.
Je n'étais pas ministre pour SFR. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier, vous n'allez pas tenir longtemps, parce que comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones. Et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose.
On vient de voir que lors des deux derniers entre-deux-tours, les lignes avaient bougé, alors soit donc à cause du débat, soit parce qu'un candidat avait opté pour une stratégie inédite. Est-ce qu'on peut s'attendre, Eric, à ce que la tendance persiste pour cette élection ?
Alors là, moi, j'ai sous les yeux notre fameuse Bible du service politique. Je n'ai pas le livre de Madame Irma. Ce qui est sûr, c'est que ça bouge. Les règles ne sont pas inscrites dans le marbre. Elles sont faites pour être démenties. On voit bien que l'évolution de la vie politique prouve que tout ce qui a longtemps été avéré ne l'est plus forcément aujourd'hui. On sent que cette élection 2022 est particulièrement gazeuse, ce qui veut dire qu'il faut rester très prudent pour ces deux semaines qui nous conduisent au second tour.
Bon, Eric, tu notes bien les sondages de ces prochains jours dans ta Bible, hein, et puis on verra dans deux semaines si la règle de l'entre-deux tours qui ne change pas le résultat a été respectée. Merci Eric.
Merci.
Éric Mandonnet, chef du service politique de l'Express. Pendant cet entre-deux tours, ne vous privez pas de lire ses analyses ainsi que celles des journalistes de son équipe sur notre site internet. Il suffit de vous abonner à l'Express, le premier mois est offert en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite. Il y a presque autant de choix qu'au premier tour de la présidentielle. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict ou Castbox, entre autres. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Cros, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Thank you.